Vous écoutez
RMC.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Souvenez-vous, le gouvernement avait promis une loi pour répondre à la crise agricole. Cette loi, elle arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bonjour Julien Dive.
Bonjour.
Vous êtes député LR de l'Aisne, vous êtes co-rapporteur du projet de loi et pour vous, cette loi, elle va permettre de défendre notre souveraineté alimentaire. Je voudrais qu'on commence directement avec un exemple, les œufs. On en parle régulièrement ici. Il y a parfois de la tension, voire même des pénuries d'œufs dans les rayons. Et lorsque l'on se penche un peu sur la question, on voit qu'il est très difficile pour les agriculteurs de pouvoir monter des grands poulaillers, des grands hangars, que ça prend un temps fou, qu'ils doivent lever des normes. Est-ce que, par exemple, les œufs, ça va être solutionné par votre loi ?
Les œufs, la viande de chair en poulailler sont prévus par ce projet de loi. C'est-à-dire l'idée, c'est de partir d'un constat. D'abord, on consomme 50% du poulet en France vient de l'importation et pas du poulet français. En restauration collective, bien sûr, on est plus davantage sur des poulets français, 80-85%.
Parce que la loi les y oblige.
Parce que la loi les y oblige. Mais en France, dans beaucoup de cas de figure, les Françaises et Français qui se rendent en restauration hors domicile, privée particulièrement, vont consommer du poulet qui est à moitié importé. Et c'est la même chose sur les œufs. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu cette souveraineté sur beaucoup de productions. Et à partir de ce moment-là, il faut identifier quels sont les écueils, en tout cas quels sont les leviers qu'il faut activer. Les leviers activés, c'est décorseter les règles. Les règles pour faciliter l'implantation de ces bâtiments d'élevage ou tout simplement les...
Aujourd'hui, il faut combien de temps pour pouvoir installer un poulailler géant ?
Aujourd'hui, vous avez une règle sur les bâtiments d'élevage, sur tout ce qui est bâtiment agricole en réalité, qui sont soumis aux mêmes conditions qu'un bâtiment industriel, ce qu'on appelle les classements ICPE. Bâtiment industriel avec des conditions de stockage, des conditions de production qui peuvent être dangereuses, on rentre dans ce cadre-là. C'est pas normal que la production agricole soit dans ce cadre-là. On veut sortir et tout simplement se standardiser au niveau européen sur ces conditions d'accès. Donc on est sur plusieurs mois aujourd'hui. Parfois ça peut prendre des années. Il y a pas de moyenne précise, mais ça peut prendre des années. L'idée est de faciliter. On n'est pas en train de dire on ouvre tout. Il y aura toujours une enquête publique, il y aura toujours un avis, il y aura toujours un contrôle. Rien n'est l'idée de libéraliser à outrance, simplement décorseter pour faciliter les projets sur nos territoires.
Et je propose qu'on écoute tout de suite le témoignage de Julien qui nous appelle du Calvados. Bonjour Julien. Julien, vous êtes agriculteur et justement, il me semble que vous avez mis du temps à pouvoir agrandir votre exploitation. Vous faites quoi ? Vous avez une porcherie, c'est ça ?
Oui, alors j'ai deux productions principales. On a de l'élevage laitier, donc on a de la laitière, et on a aussi une production porcine, on a une porcherie aussi, oui, tout à fait.
Et comment ça s'est passé pour vous quand vous avez voulu agrandir ?
Alors, c'est pas terminé. Alors que je vous parle, j'ai encore un rendez-vous vendredi matin à la préfecture pour une dernière commission avec un projet d'arrêté de 87 pages.
Okay.
Un arrêté préfectoral de 87 pages, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, je sais même pas si le PR de Flamanville en a autant. mais on est vraiment, ça fait 3 ans qu'on est sur le dossier et on nous demande des dossiers qui coûtent plus de 70-80 000 euros à construire, alors qu'on est un élevage familial pour construire une porcherie de, grosso modo, enfin, ça parlera à certains.
C'est-à-dire que là, c'est le coût de la démarche administrative. Vous ne parlez même pas du coût de construction.
Avant d'avoir le droit de savoir si on va pouvoir poser une première pierre.
Et potentiellement, à la fin, c'est pour vous dire non. Donc, ce sera
à perte. Potentiellement, c'est pour nous dire non à la fin, oui, tout à fait. Ouais. Entre-temps, depuis 3 ans, il y a eu de l'inflation, les coûts des bâtiments ont monté. Donc, finalement, c'est des projets qui mettent qui demandent une énergie pour les sortir de terre, une énergie folle, alors qu'on reste sur des tailles d'élevage qui sont familiales. On dépasse un petit peu la moyenne parce qu'on a fait le choix de s'associer. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir partir un week-end sur
trois. Pour être deux familles, quoi.
Pour simplement avoir une vie sociale, quoi. Tout simplement, pas plus, hein. On ne demande pas à avoir une ferme utile.
Mais pour qu'il y en ait qui puissent prendre le relais, quoi.
Exactement. Mais pour ça, on met un temps fou à faire des démarches administratives.
Je voudrais que le député puisse vous répondre. Julien Dive, qu'est-ce que vous pouvez dire à Julien, l'éleveur ?
Qu'on a besoin de ce texte pour tout simplement faciliter les procédures. Alors pour Julien, c'est trop tard puisqu'il est rentré dans le dispositif, dans le principe de déclaration ICPE. Mais demain, pour les nouveaux projets,
il n'y aura plus ces déclarations-là.
Il y aura toujours une déclaration qui sera un régime spécial qui va être créé par la loi, qui sera un régime qui sera facilité, qui sera toujours contrôlé, mais qui permettra de se standardiser au niveau européen. J'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on importe des denrées qui viennent en dehors de l'Union européenne, avec des standards qui sont beaucoup plus souples, avec des utilisations et des modes d'élevage qu'on refuse en Europe, qu'on refuse en France. On rajoute la couche européenne et on rajoute la couche française. Et en fait, on voit bien que notre production agricole, que ce soit en élevage, mais que ce soit aussi en production végétale, est en situation de distorsion de concurrence.
En fait, là, on est effectivement au cœur d'une problématique très française et qui ne concerne pas que vous. Mais on l'a vu aussi avec la loi, par exemple, de programmation militaire, où on s'est retrouvé avec une loi qui crée une sorte d'état d'urgence pour pouvoir lever les normes environnementales, les demandes à tout un tas d'organismes administratifs pour pouvoir ne serait-ce que monter un hangar dans lequel mettre des munitions. Est-ce que vous vous retrouvez pas aujourd'hui finalement à avoir une France qui s'est pendant très longtemps tiré une balle dans le pied en étant plus zélée que ses propres voisins?
Qui est peut-être zélée, mais qui a aussi donné des leçons aux États voisins, qui a voulu faire de la loi, qui a voulu surnormer, qui a voulu rapporter des couches législatives dans des filières. Et là, on parle d'agriculture, c'est un sujet sensible. L'agriculture, c'est notre alimentation, c'est une question de souveraineté. Je rappelle juste que pour la première fois en 2025, on a importé plus que ce qu'on a produit. C'est quand même un truc de fou dans un pays comme la France, qui est quand même une puissance agricole.
Qui, jusqu'à présent,
agricole.
Était une puissance agricole exportatrice.
Si on veut éviter, et avec notamment des traités de libre-échange qu'on a tous refusés, mais qui ont été quand même actés au niveau européen, je pense au Mercosur, si on veut pas des denrées alimentaires qui viennent d'ailleurs, dans des conditions qu'on se refuse, il faut savoir se mettre au niveau européen. Je suis désolé, mais ça paraît juste du bon sens.
Il y a moins de normes, mais ça veut aussi dire, dans ce cas-là, un peu moins de protection. Je voudrais prendre l'exemple de l'acétamipride, qui est donc surnommé l'insecticide tueur d'abeilles. Il est interdit en France. Il devait être rétabli, ou possiblement rétabli dans certaines conditions, par la loi Duplomb, mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Dans le même temps, on importe en France et on consomme, nous, tous les jours, des produits dans lesquels il y a de l'acétamipride parce que nos voisins n'appliquent pas cela. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et est-ce que vous voulez malgré tout maintenir l'interdiction de l'acétamipride en France?
Non, du tout. Moi, je veux qu'on ait un niveau qui soit celui de nos pays voisins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, en Europe, sur 27 pays, un seul a interdit l'acétamipride, c'est la France. Sur des coûts politiques, j'insiste là-dessus. Les agences de santé européennes, l'EFSA, l'a autorisé partout en Europe. Il n'y a que la France qui a dit non, nous, on va laver plus blanc que blanc. Quand je dis nous, on va laver plus blanc que blanc, c'était en 2016, hein, c'était la loi Pompili. Vous voyez, quand ça remonte quand même. Il y a eu quelques dommages collatéraux depuis pour la filière. Si c'était interdit par l'agence européenne, il n'y a pas de souci, ce serait interdit en France aussi. Mais la France est le seul à avoir remis une couche. Alors quand, tous les jours,
ça,
on importe. Tous les jours, on l'a dans des doses totalement exagérées.
Est-ce que ça n'est pas notre bonheur? Est-ce qu'un jour, on se dira pas, au fond, on a été effectivement plus prudent et on a bien fait par rapport à nos voisins?
Oui, on peut toujours faire le coq et puis dire qu'on est plus malin que la bande européenne. Ça, c'est quelque chose qui permettra peut-être à certains de se satisfaire d'avoir interdit, ou au contraire, on pourra pleurer de voir notre agriculture qui a disparu parce qu'on s'est mis des bâtons dans les roues.
Vous redoutez pas une bataille comme il y a eu pour la loi Duplomb?
Bon, les sujets les plus éruptifs ne sont pas dans le texte. C'est ce que je regrette. Le Premier ministre n'a pas eu le courage d'aborder cette question de l'acétamipride, par exemple. Mais je trouve que les débats qu'il y a eu en commission ont été de bonne facture. Bien sûr, il y a des désaccords. Bien sûr, il y a des moments un peu plus bouillants. Il y a des moments de débats fort en commission, et il y aura des débats forts dans l'hémicycle, mais je suis plus serein, ou en tout cas je suis plus confiant sur la responsabilité de chacune et de chacun.
Merci beaucoup Julien Dive. Julien, vous, l'autre Julien, l'agriculteur dans le Calvados, oui. Vous disiez que vous aviez encore une dernière réunion vendredi à la préfecture. Est-ce que oui. Vous avez bon espoir de pouvoir moderniser, agrandir votre exploitation familiale?
Oui, j'ai bon espoir parce qu'on s'entend bien avec nos voisins, le dossier d'enquête publique s'est très bien déroulé, tout. Ben voilà, c'est pas parce qu'on les ferme, on grandit, et depuis 60 ans, elles ont fait que grandir, les fermes, c'est l'histoire de l'agriculture française, mais c'est pas parce que nos fermes ont grandi qu'on s'entend mal avec nos voisins, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais on essaye de vraiment faire ça, de faire les choses bien, et simplement, on veut pouvoir faire notre métier.
Rappelez-nous la semaine prochaine, Julien, dites-nous comment ça s'est passé, et tenez-nous au courant. Merci en tout cas pour votre témoignage ce matin.